C'est quoi ce pays de merde?
Oui, non, non, d'abord, il ne faut pas dire des choses comme ça. Hein. C'est pas bien. Hein.
Merci.
Moi, je m'en vais. Vous êtes un assassin.
La société, donc, ne nous convient pas non plus. Par conséquent, la seule position politique possible est une position révolutionnaire.
Je n'oublierai pas devant nous les casquets, les fusils lance-grenades et les grands boucliers. Tout ça pour nous forcer quand nous n'avions pour nous que nos poings le bon droit et puis quelques cailloux. D'abord on s'avançait en frappant dans les mains, il y en avait parmi eux des vraies têtes de gamins. Les regards s'affrontaient face à face de tout près, eux devaient la boucler, nous pas et on chantait.
Oh allez les gars, combien on vous paye, combien on vous paye pour faire ça. Allez les gars,
qu'il y a des anarchistes dans le salon.
Bonjour, il est 13h sur Radio U. Chérie, je crois qu'il y a des anarchistes dans le salon. C'est une hebdomadaire d'actu en direct tous les lundis à 13h et on réécoute le jeudi à 10h30 et puis également en podcast sur le site radio-u.org. Alors aujourd'hui, je vous propose d'écouter le podcast d'une des émissions de Chronique Amère. Chronique Amère, c'est une chronique réalisée par des membres du réseau Alarm Phone. Alarm Phone, c'est une hotline qui est autogérée par des activistes 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 depuis 2015. Cette hotline, cette ligne téléphonique, elle permet de soutenir les appels des personnes qui sont en détresse sur la frontière méditerranéenne, d'exiger leur sauvetage et leur débarquement dans des ports sûrs. Chronique Amère, c'est aussi une chronique d'actualité et d'analyse des frontières et de leurs conséquences pour raconter ce qui se passe en mer Méditerranée depuis le point de vue donc, des personnes qui travaillent dans le réseau Alarm Phone. Donc, Chronique Amère, elle est diffusée sur Jet FM à Nantes. On peut la retrouver en podcast sur Internet. Je vous mettrai le lien dans l'article du podcast qui accompagne cette émission d'aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, on va écouter la chronique de décembre 2021 sur les enfants qui traversent. Je vais vous lire un extrait de la présentation de cette chronique. Combien d'enfants à bord? C'est une question qu'on pose à chaque fois qu'on est en contact avec des bateaux en détresse. Pourtant, au sein d'Alarm Phone, ce n'est pas un sujet. Cette émission part d'une volonté forte, rendre visibles les enfants exilés comme des sujets politiques, soutenir leur parole, la rétablir. Voilà, donc on va écouter ça, ça dure 24 minutes et on se retrouve juste après.
Alarm phone, hello.
Hello, my friend.
This is what you meant, alarm phone.
Hello, my friend. This is alarm phone.
How are you, my friend?
I hear you.
Can you hear me?
Hello, my friend.
Okay, can you give me your GPS position?
Can you give me your GPS position?
Chronique amère.
Chronique.
Chronique amère.
Chronique amère.
Une chronique mensuelle réalisée par des membres du réseau Alarm Phone.
Freedom, I don't meet them. Where's your freedom?
Can you
give
me your GPS position?
Okay, I call you back.
What kind of boat are you on?
Can you give me your GPS position?
How many are you on the boat?
I hear you.
Can you hear me?
Okay, I call you back.
I will call you back.
Try calling again, because right now I can't hear anything.
La Méditerranée est devenue un cimetière.
Parce que des milliers de gens traversent la Méditerranée.
Parce que la mer Méditerranée est une frontière.
Parce que les frontières perpétuent le racisme et le colonialisme.
Parce que le racisme et le colonialisme tuent.
Parce qu'en 2020, 1760 personnes sont mortes en traversant.
147 personnes par mois.
34 personnes par semaine.
Près de 5 personnes par jour.
Et bien, bien plus dont on ne sait rien.
Rien qu'une fois, faire les vagues et tout casser, rien qu'une fois.
Parce que des histoires existent derrière les chiffres.
Parce que ces histoires doivent être racontées.
Parce qu'on veut continuer à lutter.
Parce qu'on ne veut pas oublier.
Parce qu'on ne veut pas s'habituer.
Parce qu'on savait.
Parce qu'on savait.
Parce qu'on savait.
Bonjour à tous et toutes, et bienvenue dans la 8e édition de Chronique Amère. Dans cette émission, on va vous parler des enfants exilés. De ces jeunes et très jeunes personnes qui traversent la Méditerranée par centaines, accompagnées par leurs parents, d'autres adultes ou seuls. En février et mars dernier, pendant qu'on fabriquait l'émission sur les femmes qui traversent, qu'on élaborait autour du silence réservé aux minorités de genre sur les bateaux, on s'est rendu compte qu'il y avait des êtres dont on parlait encore moins. Vraiment beaucoup moins. Pourtant, pendant nos permanences, quand on parle au téléphone avec les adultes sur les bateaux, la question revient à chaque fois. Combien d'enfants à bord ? Les chiffres représentant des enfants apparaissent partout dans nos mails et comptes rendus de situations de détresse. Pour identifier les bateaux en détresse, on a l'habitude de demander aux personnes à bord de décrire la forme, la couleur, le type du bateau, mais aussi de nous dire combien d'hommes, de femmes et d'enfants sont présents à bord. Le nombre d'enfants sur un bateau est donc souvent très concrètement l'une des premières informations échangées. Les adultes au téléphone nous en parlent d'elles-mêmes, aussi parce que les enfants sont une immense préoccupation lors des traversées, comme on peut bien l'imaginer. Mais en préparant cette émission, on s'est rendu compte que dans Alarm Phone, on n'en parle pas vraiment. Les enfants ne sont pas un sujet dans nos réunions, nos meetings ou dans les ateliers du réseau. Et puis qu'est-ce que ça veut dire « enfant » ? Parle-t-on des bébés de 6 mois, autant que des adolescents et adolescentes de 12 ou 16 ans ? Alors pour être honnête, on marche sur des œufs. On a beaucoup de questions, de fragilité, des craintes de ne pas respecter l'importance du sujet, mais une volonté forte. Rendre visibles les enfants exilés comme des sujets politiques, soutenir leur parole, la rétablir.
Parce que la situation aux frontières est dure et violente, cette chronique et les histoires qui y sont racontées peuvent être difficiles à entendre.
J'ai 17 ans maintenant. J'ai tenté deux fois et c'est la troisième fois que j'ai réussi. Donc c'était vraiment... On est parti jusqu'à un certain moment, il y avait des vagues et les gens commençaient à crier. Ils criaient, ils avaient vraiment peur moi. Et vraiment, à un certain moment, je ne savais même pas où j'étais. Tout ce que je faisais, c'était regarder l'eau et je savais qu'ici, je peux mourir. Mais comment faire ?
Le témoignage que nous venons d'entendre a été recueilli par une camarade d'Alarm Phone auprès d'un jeune hébergé dans un foyer en Allemagne. Si les conditions d'enregistrement sont si mauvaises, c'est parce qu'elle a été obligée de l'interviewer dehors et en secret. Étant mineur, il n'a pas le droit de raconter son histoire. Ce qu'on craignait en construisant cette émission, c'est de nourrir des discours et des images qui feraient scandale et c'est tout. Comme le scandale du corps inerte d'Hélène Kurdi. Rappelez-vous, en 2015, cet enfant de 3 ans qui a péri noyé au large des côtes grecques. Et les images de son corps bombardées partout dans les médias, provoquant un large choc mondial. Et pour quel résultat ? On a envie de se rappeler de personnes racisées qui, à la suite de la mort de George Floyd, appelaient à cesser de relayer les images de son agonie en disant « Croyez-nous sans nous infliger plus de violences, plus d'images atroces. » Car ce ne sont pas les preuves des violences qui manquent, c'est autre chose. Parce qu'on ne parle jamais des enfants, on a décidé de faire 2 épisodes. On se propose une première partie sur leur traversée et une seconde sur leurs arrivées en Europe. Et on espère que suite à ces émissions, après avoir évoqué les hypocrisies qui pèsent sur les départs, les traversées et les arrivées de ces personnes qu'on appelle enfants, après avoir rappelé comment l'Europe les traite le plus souvent comme des menaces ou comment elle les prive de leurs conditions au moment du soi-disant accueil, après avoir écouté les récits de certains et certaines, après tout ça, on saura un peu mieux comment penser ces enfants qui traversent.
AP24, 21 janvier 2021, Méditerranée centrale.
128,
50 personnes,
26 mars 2021,
20 femmes, 8 enfants.
Méditerranée de l'Ouest, 12 personnes, 10 hommes et 2 enfants.
AP181, 20 avril 2021.
AP271,
Méditerranée centrale.
26 mai
42 personnes, 35
Méditerranée
hommes,
de l'Ouest,
femme, 6 enfants.
31 personnes. 15
AP
hommes, 17 femmes, 2 d'entre elles sont mineures.
1er juin 2021. AP 403,
Méditerranée centrale.
17 juillet 2021.
136 personnes, dont 6 enfants, un très petit, 1 an.
Mère et
4 femmes,
9 personnes
avec
7
adultes et 2 enfants.
22 août 2021, Méditerranée centrale.
AP 578,
3 femmes et 9 enfants.
12 septembre 2021.
AP 688,
Méditerranée de l'Ouest.
6 octobre 2021,
30 personnes.
Mère Égée.
4 femmes et 5 enfants.
20 personnes,
AP
pas de femmes, mais des enfants.
15 novembre
2021, AP
830,
17 novembre 2021,
Pologne, 10 personnes, dont des
61
enfants.
Personnes, 22 hommes, 11 femmes et 28 enfants.
les États européens font croire qu'ils offrent protection et respect aux enfants. Et ça, c'est pas nouveau. C'est même un des fondements de la politique coloniale. Cette opposition entre d'un côté une terre de droit, l'Europe, et de l'autre côté une terre sauvage où il faut amener la civilisation, les pays colonisés ou anciennement colonisés. Première hypocrisie.
On sait que ce discours est faux, que pour servir leurs projets coloniaux, les États européens n'ont pas hésité à utiliser, exploiter et déplacer des enfants. Beaucoup d'enfants. Ceux de familles populaires européennes, pupilles ou jeunes considérés comme délinquants, qui ont été déplacés de la métropole vers des pays colonisés. En les arrachant à leur environnement social, l'idée était d'en faire de bons citoyens.
Des enfants indigènes qui ont été arrachés à leur famille et déplacés vers des exploitations coloniales, pour utiliser leur force de travail et pour leur inculquer des valeurs et modes de vie coloniaux. Des enfants métis, considérés comme des menaces pour la pureté de la race blanche, qui ont été séparés de leur mère et rassemblés dans des colonies scolaires créées spécialement pour elles et eux.
Bref, on sait que cette histoire de protection des enfants par l'Europe, c'est carrément l'arnaque. Et ce qui nous fout vraiment la rage, c'est que cette histoire, écrite par les dominants, a encore des effets aujourd'hui.
Parce que de ce fait que les enfants, quand ils partent pour l'immigration, ils partent parce qu'ils pensent qu'ils vont trouver l'Eldorado. Ils pensent qu'ils vont trouver la vie meilleure, l'endroit que ils devraient être. Parce qu'on leur a vendu la rêve de l'Eldorado de l'Europe. En fait, les gens qui quittent les rives entre le Maroc, la Libye et autres, on ne leur donne pas les informations qu'eux, ils devaient en avoir. Parfois, on peut confisquer leurs enfants et en même temps aussi, parfois, ils peuvent avoir aussi des poursuites judiciaires.
Je m'appelle Sevki et j'ai 26 ans.
Alors, je m'appelle Abdoul et j'ai 23 ans aujourd'hui.
J'avais 13 ans.
J'avais 10, 11 ans. On a pris le car de Istanbul et c'est des passagers, on appelle ça. De Istanbul, ils nous ont ramenés à Izmir. Et de Izmir, on a marché dans la forêt à peu près pendant au moins une nuit quasiment. À peu près 8 heures, on a marché dans la forêt. Pour arriver sur une petite île en fait où il y avait le bateau qui nous attendait.
Et puis on est arrivé vers le bateau, on a pris le bateau, on n'était pas seul. On était à l'entour de 200 personnes.
Et on est resté sur le bateau quasiment à peu près une semaine. Et c'était sur une petite bateau, c'était un bateau de pêche. Il y avait d'autres enfants, il y avait d'autres familles, il y avait des personnes enceintes, il y avait de tout quoi. On trouvait des jeunes, des vieux, de tout.
Dans les bateaux, ils nous avaient dit à mes parents qu'il y avait la nourriture, il ne fallait plus rien ramener. Et malheureusement, ce n'était pas vrai ce qu'ils racontaient. Ils ne disaient pas la vérité. Et on est rentré donc pendant une semaine et demie, on a rien mangé. Il n'y avait pas de l'eau. Donc ça, c'était horrible. Et on était au milieu de la mer, il n'y avait que la mer, il n'y avait rien d'autre. Et donc on attendait là, on pensait qu'on va tous mourir et ça y est, c'est la fin.
Ce qui m'a marqué, c'était qu'en fait, on était enfants et on méritait pas ça ou quoi. Mais c'était, il fallait assumer, il fallait garder malgré que ce soit difficile. Parce que ce qui m'a vraiment marqué, c'était qu'on buvait l'eau de la mer. Le goût, c'était vraiment pas du tout bon, quoi.
Moi, comme j'ai vraiment pas parlé, donc j'ai un peu oublié comment je suis arrivée en France. Mais là, en grandissant, on comprend maintenant. Moi, j'accepte, donc j'accepte comment je suis arrivée, j'accepte qui je suis.
Moi, je suis fier de par où je suis passé. C'était pas facile, mais voilà, c'est une épreuve qu'on a réussi et je remercie Dieu.
La deuxième hypocrisie qui nous est apparue, c'est la phrase « les femmes et les enfants d'abord ». un genre de lieu commun quand on pense bateau et sauvetage, une sorte de loi non écrite du droit de la mer. Mikael Elindera et Oscar Eriksson, de l'Université d'Uppsala en Suède, ont étudié le taux de survie de 15 000 naufragés entre 1852 et 2011, sur deux siècles donc, et se sont aperçus qu'en moyenne, moins de 30% des femmes survivent à une catastrophe maritime, contre près de 40% des hommes. Quant aux enfants, seuls 15% en réchappent. Il est important de dire ici que la présence d'enfants, comme la présence de femmes sur un bateau, n'atténue en rien les violences organisées par les États européens contre les personnes qui traversent les frontières sans les privilèges d'un visa.
« 14 avril 2021, 9h09. L'équipe de permanence d'Alarmphone reçoit un appel de personnes paniquées. Au téléphone, une femme. La composition du bateau n'est pas claire. Nous savons uniquement qu'il y a beaucoup d'enfants à bord. Selon la position GPS reçue, et elles sont dans les eaux turques. 9h50. La femme raconte que ce sont les gardes-côtes grecs qui les ont refoulés illégalement dans les eaux turques. Elle raconte aussi qu'en Turquie, les gardes-côtes les empêchent de revenir sur leurs pas et les obligent à repartir en Grèce. 10h05. Les gardes-côtes grecs nous renvoient vers les gardes-côtes turcs, puisque le bateau est dans leurs eaux. Nous ne mentionnons pas que nous sommes au courant du refoulement pour ne pas empirer la situation des personnes à bord. 11h24. Les autorités turques nous confirment le sauvetage, mais ils attendent encore une confirmation sur la composition du bateau, possiblement 51 personnes, peut-être 30 femmes et 16 enfants. 13h. Notre interlocutrice sur le bateau nous envoie des vidéos et des images du moment où les gardes-côtes grecs les ont refoulés en toute illégalité. Elle raconte que c'est la troisième fois que la police grecque les repousse. Maintenant, la police turque les ramène en camp après avoir détruit leur bateau. 13h55. Avec l'accord de notre contact sur le bateau, Alarmphone publie un fil Twitter.
Une survivante nous a raconté. La police grecque a tiré un homme à l'eau avec une corde. Puis ils l'ont pris sur leur bateau et l'ont battu avant de le rejeter à l'eau. Nous avons sauvé l'homme nous-mêmes. Nous sommes des êtres humains. Pourquoi sommes-nous persécutés en Grèce ?
On peut constater que la composition peu banale de ce bateau, avec autant de femmes et d'enfants, n'a rien empêché ni minimisé des violences que les gardes frontières exercent sur celles et ceux qui les traversent, et n'a rien empêché non plus du caractère absolument illégal d'un refoulement.
Moi, je m'appelle Konaté, j'ai 16 ans, je suis un migrant malien. Un soir, aux environs de minuit, j'ai embarqué dans un Zodiac au niveau de qui quittait de la Libye. On avait 12 femmes à bord et 7 enfants. On tentait de rejoindre l'Italie. Le jour de départ, le bateau fonctionnait et j'étais assis à côté des deux enfants, jumelles. Le matin du troisième jour, on est tombé en panne d'essence. On avait un seul téléphone qu'on nous avait donné en Libye et qui était censé être celui de secours internationaux. Mais la ligne ne passait pas. Tout le monde criait. On pensait que c'était la mort. On n'avait plus le choix. Alors, on a appelé la police libyenne pour leur demander de venir nous chercher. Ils nous ont dit qu'ils ne viendraient pas. On a jeté le moteur. Il y avait beaucoup de vent. Et on voulait s'en servir pour faire avancer le bateau, mais il n'était pas la bonne position. L'un de nous, un Ivoirien, a dit qu'il savait nager. Il a dit qu'il pouvait aller dans l'eau pour orienter le bateau de manière à ce qu'il soit poussé par le vent. Il y est allé, il y a eu des vagues. Il a essayé de s'accrocher aux eaux, dire mais il a été emporté. On ne pouvait rien pour lui. quand tu es dans un bateau comme ça, tu ne peux pas parler qu'aux personnes à côté de toi. Ceux qui sont à l'autre bout, tu ne les entends pas. Si tu es à côté d'une personne qui parle ta langue, tu as de la chance. Les 5 premiers jours, je n'ai pas dormi. Le 7e jour, on s'est dit, si quelqu'un ne vient pas nous aider maintenant, on va tous mourir. Un Soudanais a alors sorti son téléphone qu'il avait réussi à protéger dans un sac plastique. Le téléphone ne marchait pas, mais on a pu récupérer la batterie qui n'avait pas pris l'eau. J'ai pu appeler le numéro d'un grand bateau humanitaire qu'un passager avait gardé sur une feuille mouillée. Au bout du fil, on nous a demandé notre position. On n'en avait aucune idée. Des hélicoptères ont été envoyés pour nous retrouver. Cette nuit-là, enfin, je me suis endormi. Le lendemain, on a été secouru par un groupe italien qui nous a amenés en Sicile. On s'est dit qu'on s'en est sorti grâce à Dieu.
Αχ που πήρε το παιδάκι μου τζιβαέρι μου και το κάμες δικό σου σιγανά, σιγανά.
En 1989, la Convention relative aux droits de l'enfant a été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée générale des Nations unies dans une forme de consensus inédit. Avec 195 États, c'est le traité relatif aux droits humains le plus largement ratifié de l'histoire. C'est aussi le premier texte international qui reconnaît explicitement les moins de 18 ans comme des êtres à part entière. La Convention comporte 54 articles, énonçant que chaque enfant a, entre autres, le droit d'être protégé de la violence, de la maltraitance et de toute forme d'abus et d'exploitation. Le droit d'être protégé contre toutes les formes de discrimination. Le droit de ne pas faire la guerre, ni la subir. Le droit d'avoir un refuge, d'être secouru et d'avoir des conditions de vie décentes.
Alors comment est-ce possible? Qu'est-ce qui fait que tous les enfants n'ont pas le droit au même statut, n'inspirent pas les mêmes mesures de protection? Pourquoi est-ce que certains peuvent être à ce point exposés aux violences policières, étatiques ou militaires? Sans aucun doute, parce que les structures coloniales et racistes empêchent de voir ces enfants comme ce qu'ils sont, des enfants.
On avait encore envie de vous partager une histoire de Boza, racontée par Hassan, un camarade d'Oujda, au Maroc. Faire le Boza, c'est avoir réussi à déjouer les frontières, c'est être arrivé de l'autre côté.
Il y a une famille là, qui a décidé de faire le Boza, c'était de Hessima, de Rif, la région de Hessima. Donc, ils ont tout préparé. Il y avait le mari, sa femme et la petite fille de 2 ans et demi. Le moment où ils ont décidé, c'était 2h30, ils vont sortir de la maison. Ils étaient dans une maison juste à côté de la plage. La petite, dès qu'ils ont sorti, il a commencé à crier. Il crie le chat, le chat, le chat. Ils ont une petite chat à la maison. Donc, il faut qu'on ramène avec nous le chat. Donc, ils ont décidé de mettre le chat dans un petit carton. Et ils vont la laisser quelque part. Mais la petite, elle a senti que le chat va... Ils vont se débarrasser de chat. Parce que la petite, elle a resté accrochée au chat. Elle est accrochée à la petite carton. Jusqu'à la plage. D'une manière, vraiment, c'était incroyable. Donc, ils ont décidé que le chat va monter à bord. Donc, ils ont fait le Boza à Montreal avec un chat.
Voilà, Chronique amère, c'est fini pour aujourd'hui. On voulait terminer cette chronique avec des pensées de solidarité. Des pensées de solidarité pour toutes les enfants qui traversent et tous les adultes qui les accompagnent. Pour tous les enfants qui sont là, qui se taisent ou qui racontent un jour, ou pas. Pour toutes ces enfants qui se construisent une vie après la traversée et qui ont tant de raisons d'être fiers d'elles. Des pensées de solidarité pour les survivantes, les proches et toutes celles affectées par la tragédie dans la Manche survenue le 24 novembre dernier, où les autorités ont laissé mourir au moins 27 personnes. Des hommes, des femmes et des enfants. Des pensées de solidarité pour toutes les victimes, des discours racistes, comme celui de Darmanin, qui, 4 jours après cette tragédie, s'est permis de déclarer que si les policiers français n'avaient pas effectué de sauvetage, c'est parce que les migrantes menaçaient de jeter leurs enfants sur les gardes-côtes ou dans l'eau. On n'en peut plus d'entendre des conneries pareilles. Des pensées de solidarité pour les chats et toutes les amies imaginaires et réelles qui soutiennent les enfants dans leur traversée et à leur arrivée.
Merci à toutes celles et ceux qui ont rendu cette chronique possible. Merci à celles qui nous ont fait des retours, qui l'ont diffusée, qui y ont participé. Vous pouvez réécouter cette chronique sur le site de Jet FM et sur celui de l'Alarmphone. Vous pouvez aussi la partager avec vos proches et la diffuser à l'infini. Pour en savoir plus sur Alarmphone et les traversées des frontières européennes, vous pouvez aussi consulter le site Watch the Med ou celui d'Alarmphone. Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle édition de Chronique Amère. On y parlera de comment l'Europe traite les enfants exilés une fois arrivés sur son sol. Et en attendant, main sur le cœur et poing levé.
On est toujours en direct sur Radio U 101.fm. C'est l'émission Chérie. Je crois qu'il y a des anarchistes dans le salon. Ça touche à sa fin. Là, on vient d'écouter, comme vous l'avez entendu, la chronique de Chronique Amère, une chronique réalisée par les membres du réseau Alarmphone. Pour rappel, Alarmphone, c'est une hotline autogérée par des activistes 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 depuis 2015 pour aider et orienter les personnes qui traversent la Méditerranée. Alors n'hésitez pas à aller les soutenir, notamment financièrement, parce qu'ils en ont besoin. Je vous mettrai le lien sur la page du podcast de cette émission sur radio-u.org. Voilà, alors cette émission, elle est rediffusée ce jeudi à 10h30 et on va se quitter avec le titre « No One is Illegal » de Circle A. C'est un groupe de rodents radical. Voilà, bonne semaine et puis à lundi prochain.